Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
7h43 sur France Culture. Contrairement à ce que disent certains, il n'est pas inutile d'expliquer pourquoi certains Français deviennent djihadistes, puisque, faut-il le rappeler, expliquer ne veut pas dire justifier. Il y va du travail des sciences sociales, dont le premier but, et il est important de le rappeler, est d'expliquer le sens de comportements a priori irrationnels, étranges, absurdes, dangereux, tels que le terrorisme et les attentats suicides. Bonjour Olivier Roy.
Bonjour.
Vous apportez une réponse particulièrement riche à ces questions, des questions qui nous heurtent chaque jour dans l'actualité, par exemple avec le père de Rachid Kassim qui a été arrêté hier parce que celui-ci, semble-t-il, aurait été converti au terrorisme par son fils, un fils qui, jadis, était rappeur.
Je suis un terroriste parce que les organes de mon peuple, je les mémorise. Vous me jugez, mes bons soldats, nos terroristes. Fermez nos gueules et brûlez vite, ça on nous autorise. Je suis un terroriste.
Olivier Roy, comment passe-t-on en l'espace de quelques semaines de rappeur à terroriste ?
C'est le phénomène des born again, c'est-à-dire de ceux qui font un retour subi à la religion, mais qui du coup basculent dans un type de religion complètement fondamentaliste. Parce qu'il ne veut pas dire qu'ils vont forcément devenir terroristes, bien entendu. Et on a beaucoup de cas comme ça. En Allemagne, par exemple, il y a tout un groupe de rappeurs qui sont partis en Syrie faire le djihad. Bien sûr, ils arrêtent de rapper une fois arrivés en Syrie. Ils passent à d'autres types de musique, si je peux dire. Mais tous ces jeunes, et on a une base de données, en gros, de tous les ceux qui ont commis des actes de terrorisme sur l'espace France et Belgique, tous ces jeunes, enfin 95%, ont une vie normale de jeunes, si on peut dire, normale. Ils aiment le rap, ils fument du hashish, et parfois ils vont en prison.
Un détail près, toutefois, comme je l'ai dit tout à l'heure, Rachid Kassim a converti son père, alors qu'ordinairement dans la religion, c'est le père qui apprend sa religion au fils. Est-ce un cas inédit, Olivier Roy ?
Non, c'est même le cas général. Enfin, ça ne veut pas dire que les pères se laissent faire. Mais toute cette génération de radicaux et de djihadistes considèrent que leurs parents ne sont pas de bons musulmans. Et ils vont se former à l'islam en dehors du cercle familial, par exemple sur Internet, ou dans le cadre de la petite bande de copains autoradicalisés, si on peut dire. Et puis après, ils font la leçon à leurs parents. Oui, alors ça, on a plein d'exemples de messages qu'ils envoient. Ils ont en général plutôt un certain mépris pour leur père. Ils gardent une certaine tendresse pour leur mère. Et on voit des messages, par exemple, la veille du jour où ils vont se faire sauter, ils écrivent à leur mère en disant « Maman, tu es une mauvaise musulmane, mais grâce à moi, tu iras au paradis parce que en me faisant sauter, j'ai le droit d'avoir un ticket gratuit. »
Olivier Roy, vous avez jeté un pavé dans la mare au travers d'une expression lorsque l'on a commencé à s'interroger sur les causes du djihadisme en France et dans le monde. Vous avez dit qu'il ne s'agissait pas finalement d'une radicalisation de l'islam, comme on peut le penser, mais plutôt d'une islamisation de la radicalité. Expliquez-nous tout d'abord ce que cela signifie.
Ça signifie que ces jeunes ne sont pas dans l'islam. Alors, soit ils sont de culture musulmane, on a une majorité de seconde génération, dans les 60-65%, soit c'est des convertis. Les convertis, c'est 25%, et maintenant le nombre de convertis augmente considérablement, en particulier chez les filles. Donc, ce ne sont pas des gens qui ont été éduqués religieusement en islam. Aucun d'entre eux n'a été un pilier de mosquée, aucun d'entre eux n'a fait de la prédication, aucun d'entre eux n'a fait le pèlerinage à la Mecque, etc., etc.
Et ce sont de mauvais musulmans.
Oui, ils boivent de l'alcool, ils sortent en boîte, ils ont des petites copines, etc. Et puis, un beau matin, ils deviennent born again. Et c'est ça le basculement. Alors, quand ils se radicalisent, ils choisissent l'islam. Donc ça, c'est très important. Ils croient qu'ils vont aller au paradis. L'islam, c'est pas une excuse, c'est pas simplement un prétexte, c'est pas simplement un habillage. Ils sont de sincères musulmans, à ce moment-là. Et il y a même, dans l'acte de se faire sauter, il y a une dimension, je dirais, presque mystique. C'est-à-dire qu'on va au paradis, on est convaincu qu'on va d'un seul coup racheter toute une vie de pécheur, ils le disent aussi, par un simple acte. Mais ce sont pas des dévots. C'est-à-dire que ce sont pas des gens qui se confondent dans la prière, dans la recherche de la viande halal, etc. Ils sont persuadés que par le simple acte d'aller au paradis, enfin de se tuer, ils vont racheter toute leur vie de péché. Donc c'est pas la peine, dans le fond, pour eux, de se lancer dans la pratique, dans l'orthopraxie religieuse.
L'orthopraxie, une pratique orthodoxe de la religion. Mais cette thèse, votre thèse, donc de l'islamisation de la radicalité, a été très critiquée. Je vais essayer de résumer trois des principales critiques qui lui ont été adressées. La première, Olivier Roy, on considère que vous cherchez finalement à disculper l'islam, alors que, si l'on observe en quelque sorte sur le marché des religions, celle-ci semble être aujourd'hui la plus violente et de loin. Alors, est-ce que vous considérez que c'est une excuse pour l'islam que finalement, eh bien, vous en êtes l'avocat au travers de cette formule?
Non, parce que la radicalisation de l'islam existe. Enfin, ce qu'on appelle radicalisation de l'islam, c'est-à-dire le salafisme. Le salafisme se répand, en particulier chez les jeunes de seconde génération. Et le salafisme pose de très gros problèmes sociétaux. Le salafisme organise, en gros, la sécession du groupe religieux. Il est très réticent par rapport à l'interaction sociale, même des choses très, très banales comme serrer la main d'une femme, etc. Donc partout où les salafistes s'implantent, il y a des problèmes. Ce que je conteste, c'est le fait que le salafisme soit le sas d'entrée au terrorisme. C'est-à-dire qu'on est d'abord salafiste et ensuite on passe au terrorisme. Quand on regarde la trajectoire des jeunes, c'est pas vrai. Bon, simplement, maintenant, reste à expliquer tout ça. Mais voilà, on a un fait objectif. Ils ne passent pas du salafisme au terrorisme.
Mais comment expliquez-vous, Olivier Roy, que cette islamisation de la radicalité, elle se traduise, comme le dit votre formule, par l'islam, tandis que d'autres religions semblent plus rétives à la violence? Ou pour le dire autrement, y aurait-il un lien consubstantiel, en quelque sorte, entre l'islam et la violence ?
L'attentat suicide est quelque chose qui a été mis au point, si on peut dire, par les tigres tamouls, donc qui étaient supposés hindouistes, et qui s'est répandu, qui a été repris par le Hezbollah, et qui s'est, disons, systématisé chez les sunnites au milieu des années 90. Donc on peut pas dire que pendant 14 siècles, l'islam aurait été, aurait fait la promotion du terrorisme suicidaire, simplement pour que ça se révèle à la fin du XXe siècle. Il y a évidemment dans le Coran, il y a le djihad. Et le djihad, c'est la guerre, bien entendu. Hein. C'est pas la peine de faire des grandes histoires sur le djihad comme l'effort pour être un meilleur musulman, etc. Il y a bien une tradition de guerre sainte. Mais cette guerre sainte, dans toute l'histoire de l'islam, elle est très normée. On devient pas djihadiste comme ça. Et tous les docteurs de la loi ont fait des traités pour expliquer que ça s'applique à un territoire donné, que c'est une obligation qui est collective et pas individuelle, que ça n'a rien à voir avec le pèlerinage, etc., etc. Or, pour ces jeunes, le djihad, c'est l'islam. Et c'est ça la différence.
On écoute d'ailleurs l'un de ces jeunes.
Le mot djihad, qu'on peut traduire par la lutte armée, c'est simplement le fait de combattre une injustice. Le djihad a ses règles. Mettre une bombe au milieu d'un marché, même si c'est pour toucher la sécurité, si on sait que ça va faire partir des civils, n'acceptons pas ce type d'action. Par rapport au futur, nous, ce qu'on demande, c'est un État islamique qui serait le choix du peuple. Nous défendons nos croyances, notre doctrine, qui est l'islam.
On entend donc par Abdelrahman Ayachi une conception du djihad avec un certain nombre d'interdits, car on le sait, mais il n'est peut-être pas inutile de le rappeler, tous ces attentats ont toujours été très sévèrement critiqués, notamment par les plus hautes instances sunnites. Olivier Roy, néanmoins, et c'est la seconde critique qu'on peut adresser à votre explication, néanmoins, on se dit, comme dans toute explication fonctionnaliste, parce que finalement, c'est une explication fonctionnaliste, c'est-à-dire qu'elle considère que le kamikaze, dans le fait de se donner la mort, remplit une fonction, remplit une sorte de besoin. Et donc, du coup, on cherche à comprendre d'où vient ce besoin, parce que finalement, eh bien, on ne comprend pas pourquoi des individus ont tant besoin de métaboliser leur colère en suicide.
Alors, j'ai pas forcément d'explication pour ça. Simplement, moi, je regarde de manière, disons, transversale. Pas du côté du christianisme, du judaïsme, etc. Mais dans la culture jeune, dans ce qui se passe aujourd'hui dans la jeunesse. Et on remarque que depuis une vingtaine d'années, c'est-à-dire en gros depuis que les attentats suicides ont commencé en Europe, on a des formes de violence qui sont très semblables, simplement, elles ne se font pas au nom de la religion. Je pense par exemple au phénomène Columbine, donc des jeunes armés qui retournent dans leur collège ou dans leur lycée pour assassiner leurs petits copains, leurs ex-petits copains, et qui, dans la mise en scène de leur meurtre, utilisent dans le fond les mêmes techniques que les terroristes. C'est-à-dire, on annonce la chose sur Internet. Certes, dans certains cas de Columbine, on se réclame du satanisme, donc on a effectivement une espèce d'idéologie qui est centrée sur la mort. On se filme avec une GoPro pendant qu'on fait l'action, et puis soit on se fait sauter, soit on attend dans le fond que la police arrive et vous tue. Ce qui est le schéma même de tous les actes terroristes en Europe, et souvent aux États-Unis depuis 20 ans. Donc il y a quelque chose. Je prétends pas avoir une explication, ou alors on tomberait dans une explication un peu métaphysique, non. Mais je constate que chez beaucoup de psy, ils remarquent qu'il y a effectivement des changements dans le comportement des jeunes. Il y a un discours de la violence et de la radicalité qui ne porte pas forcément sur la religion, mais qu'on va retrouver dans beaucoup de comportements à risque.
Mais dans votre livre, Olivier Roy, Le djihad et la mort, vous rappelez un certain nombre de mouvements terroristes, la bande d'Abadère, par exemple, la fraction Armée Rouge, donc pour prendre des mouvements européens. Et ces mouvements-là donc remplissaient une fonction de radicalité. Mais alors, il faut nous expliquer pourquoi aujourd'hui ce phénomène de djihadisme prend une telle ampleur, alors que l'être humain est ce qu'il a toujours été, et que, par exemple, en France, nous n'avons pas connu de vagues de radicalité meurtrière très forte. Il y a eu Action Directe, mais Action Directe n'est pas comparable à la fraction Armée Rouge ou à la bande Abadère.
La France est un peu une exception là-dessus, hein, parce que l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie ont connu des attentats et des morts beaucoup plus nombreux. Je dirais qu'il y a des points communs entre tous ces mouvements-là. Il y a le phénomène générationnel, il y a la fascination pour la globalisation, c'est-à-dire pour une lutte qui est en fait une lutte planétaire. Alors on se battait pour le prolétariat international, on se bat maintenant pour l'Aouma international, mais le djihad a remplacé la révolution et l'Aouma a remplacé la classe ouvrière. On se coordonne avec des groupes étrangers, ça c'était la bande Abadère. Mais la différence, je dirais, elle est sociale. C'est que, en gros, les militants des années 60-70 appartenaient aux classes moyennes et aux milieux intellectuels. Donc, dans le fond, même quand ils se lançaient dans la radicalité qu'ils appelaient à détruire l'ancien monde, ils lisaient Lacan le soir, et pour certains, ils continuaient à faire du latin.
Et puis, la troisième critique qui est adressée à votre explication, Olivier Roy, est celle selon laquelle, finalement, vous niez l'oppression sociale dont seraient victimes ces terroristes et à laquelle, finalement, ils ne feraient que répondre au travers d'actes évidemment condamnables, mais qui seraient à proportion de l'oppression qu'ils subiraient.
Alors, si la majorité des terroristes vient bien des secondes générations, il y a quand même plusieurs phénomènes frappants. Le nombre de convertis. On peut pas dire que les convertis viennent de milieux qui soient spécialement opprimés, surtout quand ils viennent de Normandie ou de Bretagne. Il y a le fait que la révolte reste essentiellement concernée par les secondes générations, sur 20 ans. Donc, on se dirait, bon, si c'est une protestation contre la situation des banlieues, on verrait arriver assez massivement les troisièmes génération. Pour le moment, on les voit pas. Et puis ensuite, eux ne formulent pas ça comme une réponse à leur situation concrète. Ils se réclament toujours d'autres causes. L'islam mondialisé, ils vont parler de la Tchétchénie, de la Palestine, des Ouïghours, etc. Aucun d'entre eux ne se...
Sauf quand ils sont tchétchènes.
Oui.
Oui, puisque il faut dire que l'auteur des attentats de Boston, les deux frères Tarnaïev, étaient tchétchènes et n'ont pas agi pour la Tchétchénie.
Non. Non, aucun. Un Afghan n'agit pas pour l'Afghanistan non plus. Alors que les gars de Boston auraient très très bien pu aller tuer des Russes, ils ont tué des marathoniens de Boston. Aucun d'entre eux ne se réfère à son père, c'est-à-dire au pays et à l'histoire de son père. Les Algériens ne parlent pas des parachutistes d'Alger. Quand ils passent au terrorisme, ils vont vous parler des croisés. Les Bangladeshis qui ont assassiné des Italiens il y a quelques semaines, c'est pareil. Ils ont dit qu'ils ont assassiné des croisés. Bon, ils sont jamais insérés dans des combats réels. Il y a quand même une chose, par exemple, qui est très très frappante. On dit le conflit israélo-palestinien a radicalisé les jeunes les jeunes musulmans en Europe. Sauf que ces jeunes vont rejoindre Daesh, dont le principal ennemi est le Hezbollah, qui est le principal défenseur militaire des Palestiniens. Daesh a assassiné des cadres du Hamas qui sont à la fois musulmans et djihadistes dans le camp de Yarmouk. Et alors on comprend pas pourquoi ces jeunes iraient rejoindre Daesh.
Le djihad et la mort, c'est votre livre, Olivier Roy. Il est publié aux éditions du Seuil.